Alléluia. On va continuer notre connaissance de Dieu au travers des cinq langages de l'amour. Normalement, il y a encore un tableau ce soir qui va rappeler ce qui a déjà été vu et ce qui va être vu ce soir. Alors, on se rappelle que ces cinq langages de l'amour donnés par Gary Chapman sont cinq manières d'exprimer notre amour à l'égard de ceux qui nous entourent. Pas seulement le dire à quelqu'un « je t'aime », mais les gestes, les attitudes qui le prouvent. Cinq façons universelles d'exprimer notre amour. Et puis, on s'amuse à nous servir de cet appui pour voir comment Jésus lui-même a exprimé l'amour du Père Céleste à nous humains, justement, par ces langages que nous pouvons comprendre. Bah oui. Alors il y a plein d'autres signes. Hein. Quand on voit la beauté de la création, on pourrait se dire, quelle beauté, quel spectacle que le Seigneur nous accorde chaque jour. Bien sûr, par la conscience. Honnêtement, la conscience nous parle, nous fait appeler à l'espérance, à la vie. Et comme tout ça ne suffisait pas, Dieu a voulu s'incarner lui-même au travers de Jésus-Christ et manifester par tous ses agissements tout l'amour du Père. Alors on avait vu déjà qu'effectivement Jésus a manifesté l'amour du Père par toutes ses paroles valorisantes. Il avait ses paroles remplies d'encouragement. Jamais des paroles qui tuaient, qui blessaient, mais au contraire des paroles qui encourageaient, qui stimulaient la foi, qui redonnaient de la dignité aux êtres humains, même les plus bas tombés. La dernière fois, on avait vu que Jésus se servait de ce contact physique affectif pour communiquer l'amour. Non seulement on le voyait prendre les enfants dans ses bras, prier pour eux, les serrer dans ses bras, mais il allait jusqu'à se laisser toucher par des gens qui étaient considérés comme des impurs, des impropres. Il a même allé, ça fait partie des exemples qu'il nous laisse, que ce Jésus ne s'arrêtait pas non plus à ce qu'il regardait, à ressentait, mais il faisait aussi partie, il est cet amour qui était capable de poser sa main sur les lépreux. Pas les lépreux guéris, hein. Par sa présence et par sa prière, il guérissait. Et Jésus s'est montré comme cet être qui révélait l'amour du Père, qui acceptait de toucher nos misères, nos maladresses, nos écœurements, ce qui nous pourrait nous écœurer, le Seigneur lui, ça ne l'écœure pas parce que son amour transcende tout ça. Mais ce soir, ce que l'on va voir, c'est ce troisième langage de l'amour qui est le temps passé ensemble. J'ai envie de dire, c'est peut-être personnel, mais je dirais que le temps passé ensemble, c'est peut-être la meilleure preuve d'affection que l'on peut manifester à quelqu'un. Le temps que l'on passe avec quelqu'un, c'est la preuve, je crois plus que toutes les autres, de l'affection que l'on a pour quelqu'un. Je dirais même que aimer, c'est prendre le temps. Regardons-le un peu dans le sens inverse. On prend le temps pour les choses que l'on aime. Donc aimer, c'est prendre le temps. Et il ne manque pas d'activités que les hommes et que les femmes de notre génération aiment et qui leur prennent du temps, que ce soit les loisirs, le sport, la télé, le jeu, le grattage, les hobbies, etc., etc. Là où on met du temps, c'est là qu'il y a notre cœur, n'est-ce pas? Alors Dieu nous interpelle, et Gary Chapman nous interpelle aussi. Nous qui disons aimer les gens, il dit, si tu veux vraiment leur manifester l'amour, eh bien sache prendre du temps avec eux. Ça nous est tous arrivé que des gens nous disent qu'ils nous aiment alors qu'ils ne prennent pas de temps avec nous. Ils ne nous téléphonent pas ou si peu. Et on se dit, ouais, quand ils nous disent qu'ils nous aiment, on n'est pas si enthousiaste que ça, quoi. On sourit. Par contre, des personnes qui ne vont peut-être pas forcément nous le dire, mais on sent qu'ils sont avec nous et qu'ils sont avec nous véritablement, ils n'ont pas l'esprit en plus ailleurs et ils aiment être avec nous. On se sent estimé, n'est-ce pas? On se sent valorisé. On sent que qu'on est un centre d'intérêt. Quand on prend le temps d'être avec quelqu'un ou quand quelqu'un prend le temps d'être avec nous, on sent qu'on a de l'intérêt pour cette personne. On se sent considéré pour ce que nous sommes, n'est-ce pas ? On se sent valorisé, on se sent estimé. Même peut-être que dans notre cœur, on peut se dire mais pourquoi lui ou elle passe du temps avec moi, elle pourrait faire tant d'autres choses. Et on se sent estimé, valorisé de ce que une personne prenne du temps de rester avec nous. Dans la vie de couple, nous encourageons vivement les couples à ne pas se laisser emporter par le flot, les activités, les rendez-vous, les agendas trop remplis. Et nous invitons les couples à savoir prendre du temps ensemble. Plus exactement, nous invitons les couples à savoir se réserver du temps ensemble. La vie est ainsi faite. Si on se dit, on prendra du temps, oui, un jour, ce jour n'arrive jamais. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, n'est-ce pas ? On a toujours mille et une occupations. Et dans une vie de couple, une relation de couple, il est important que le couple apprenne à se fixer des rendez-vous pour être ensemble, pour se retrouver en tant que couple. Ça ravive la connivence, ça revive la simplicité, ça ravive cet élan de ça ressoude le couple, ça ressoude les individualités qui se retrouvent enfin face à face et qui retrouvent cette connivence. C'est très important que le couple retrouve et trouve du temps de cultiver ces moments d'intimité. Nous encourageons les parents également à prendre, à réserver du temps pour les enfants. Les enfants ont besoin de qualité de relation avec leurs parents. Quand je dis de qualité, c'est-à-dire que être avec l'enfant, avec le journal sous les yeux, la télé qui fonctionne, et dire oui, dès que l'enfant parle, ce n'est pas une relation de qualité. Donc être là avec l'enfant, jouer avec lui, faire des choses avec lui, il faut de la qualité et il faut aussi de la quantité. L'un ne peut pas remplacer l'autre. Il faut qu'il y ait cette quantité, il faut qu'il y ait cette qualité. Et dans le cœur d'un enfant, le temps passé ensemble est un des éléments les plus importants. Un enfant, ce qu'il réclamera le plus de la part de ses parents, c'est leur présence. C'est la chose la plus importante, la plus importante. Et ça, nous ne devons pas leur priver, non seulement parce que si on leur prive, d'un signe d'amour, on leur prive d'un signe d'amour manifeste pour eux, mais on les prive aussi de l'apprentissage de la vie. Parce qu'un enfant grandit avec quoi ? Un enfant grandit sur la base de quoi ? De ce qu'il voit, et surtout de ce qu'il voit de ses parents. Et quand nous prenons le temps d'être avec l'enfant, ce n'est pas seulement du temps passé, ce n'est pas du temps de gaspiller, mais c'est du temps d'investi. Parce que l'enfant qui nous voit vivre, l'enfant qui nous voit réagir, l'enfant qui nous entend parler, l'enfant qui nous voit nous comporter, saura par notre exemple comment nous conduire, comment nous comporter, comment agir, comment parler, comment répondre. Et quand l'enfant est privé de la présence de ses parents, non seulement il est privé de ce signe d'amour évident, mais il est privé d'une grande part d'éducation, d'apprentissage de la vie, parce que les premiers enseignants de la vie sont les parents. Et si les parents ne sont pas là, qui va éduquer l'enfant ? L'enfant n'apprend pas seulement dans des livres, il apprend essentiellement par l'observation, par l'écoute de ce qu'il voit faire au travers de son père et de sa mère. Oui, le temps passé, c'est une preuve manifeste de l'amour, mais c'est également le meilleur moyen pédagogique. Parce qu'en passant du temps avec quelqu'un, on l'influence. En passant du temps avec quelqu'un, on lui apprend le meilleur outil qui est pédagogique, qui est celui de montrer et d'accompagner. Cette notion de proximité, cette notion de passer du temps ensemble est tellement essentielle que Jésus en a fait son premier point de travail. Le temps passé ensemble a été dans la vie de Jésus la priorité. On peut lire, si vous le souhaitez, Marc chapitre 3, versets 3 à 15. Ce passage-là, c'est le passage où Jésus décide de choisir ses disciples. Un moment important. Mais vous allez vous apercevoir dans le fil de la méditation que ce principe du temps passé ensemble, Jésus l'a appliqué avec tout le monde. Mais Marc chapitre 3, versets 13 à 15, Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Jésus choisit 12 hommes pour les avoir avec lui. C'est la première des choses que Jésus fait dans son orientation avec ses disciples. Bien sûr, on aurait pu se dire, ah, Jésus va choisir 12 hommes et là, il va leur donner un pouvoir extraordinaire pour chasser les démons, guérir les gens, annoncer l'évangile. C'est vrai, il aura aussi donné ça. Mais la première des choses que Jésus établit, c'est pour qu'ils prennent du temps à être ensemble. Justement, parce que rien ne peut remplacer la proximité avec une personne. Comme on l'a dit tout à l'heure, en préambule dans la vie de couple ou dans la vie de parentalité. Il y a un transfert, il y a un exemple, il y a une mentalité, il y a une influence qui se fait. Et Jésus n'est pas du tout, pardonnez-moi, ce vieux monsieur qui est assis sur un nuage et qui attend que les choses se passent. Non, Jésus est celui qui se présente comme étant celui qui est de proximité, le Dieu de proximité, le maître de proximité, l'ami de proximité. D'ailleurs, Jésus le dira à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que l'ami sait ce que veut faire son ami. Et il y a dans la logique de Jésus, qui est toujours la même aujourd'hui, ce désir de proximité. Jésus veut être encore aujourd'hui, en 2015, avec nous et nous avec lui. C'est encore aujourd'hui. Oh, Jésus, il est mort. Il est mort. Mais il est ressuscité. Jésus est toujours vivant. Vous ne le verrez pas se promener dans les rues. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mieux que ça. D'ailleurs, Jésus l'a dit à ses propres disciples. Il a dit, il vous est avantageux que je ne meure. Comment ça? Oui, oui, il vaut mieux pour vous que je meure. Et les disciples ne comprenaient pas. Après, il leur explique, parce que quand je m'en irai, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous éclairera toutes choses. Et lui, il sera avec vous tous les jours. Et c'est pour ça qu'avant de partir, Jésus a dit une réalité qui est présente pour chacun des hommes et des femmes qui ont fait cette expérience de recevoir Jésus dans leur cœur. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est toujours celui qui a les mêmes projets. Si vous décidez dans votre cœur de dire maintenant Jésus, je veux être ton disciple, alors Jésus aura toujours le même projet pour vous, afin qu'il soit avec vous et qu'il vous équipe de sa puissance pour aller plus loin. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous décidez d'être disciple de Jésus, Jésus s'engage à être avec vous. Jésus vous fait la promesse d'être avec vous tous les jours. Tous les jours, même les jours fériés, même les jours de vacances, même les jours où ça va pas, même les jours où ça va bien, même les jours où on croit qu'on n'a pas besoin de lui, c'est là où ça dérape vite. Mais Jésus a cette promesse. Vous savez, beaucoup de gens sur cette terre pensent que Dieu est un Dieu lointain, un Dieu absent presque. Oh oui, Dieu existe certainement, il y a sûrement un Dieu, mais c'est comme s'il était dans un autre monde, un monde où il nous entendrait à peine, un monde d'où il ne pourrait pas agir. Mais toute l'Écriture nous parle de tout l'inverse. C'est en Actes chapitre 17, verset 27, pour ceux qui prennent des notes, Actes 17, 27, où il est écrit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et c'est ça que Dieu veut qu'on réalise, c'est que Dieu est un Dieu de proximité, déjà dans l'Ancien Testament. En Deutéronome chapitre 4, verset 7, le peuple d'Israël avait tellement conscience de la proximité de Dieu qu'il est écrit « Mais quel autre que Dieu que toi ? Quel Dieu est aussi proche de nous toutes les fois que nous l'invoquons ? Quel Dieu est comparable à toi ? Quel Dieu sur ce monde est aussi proche de nous toutes les fois que nous te prions ? Quel autre Dieu ? Il n'y en a pas d'autre. Parce que le Dieu que nous invoquons est un Dieu vivant. Amen. C'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui agit. Et quiconque réalise qu'il y a cette proximité de possible, réalise qu'on a un Dieu merveilleux. Et là, on peut s'émerveiller comme le peuple d'Israël. Mais quel Dieu est comparable à toi ? Quel Dieu est comme toi ? Quel Dieu est aussi proche de nous ? Toutes les fois que nous l'invoquons, ne cherchez pas, et il n'y en a pas. Alors autant se rapprocher de Jésus. Cette compréhension de la proximité de Dieu, elle est essentielle pour prier. Il y a des gens aussi sur cette terre qui prient sous forme de récitation. Il y a des gens qui prient sur cette terre avec l'horloge. Ah, c'est telle heure, faut prier. Ah, c'est telle heure, faut prier. Ah, c'est telle heure, faut prier. Ah, c'est telle heure. Ah ben non, j'ai fait plus de prières que ce qu'il fallait, donc c'est bon. Il y a des gens, voilà, ils sont codifiés, il faut faire un certain nombre de prières, il faut les faire à certains moments, il faut dire ces mots-là et pas les autres. Il faut avoir une tenue, il faut se tenir comme ça, il faut être très concentré. Il ne faut pas penser à autre chose, sinon attention, on ne sait pas comment le Dieu pourrait se manifester. Il y a des gens qui prient, mais en fait, ils ne ressentent rien. Il y a des gens qui prient, j'aimerais tellement... Mais ils ont l'impression que leur prière ne dépasse pas le plafond. Il y a des gens qui ne prient plus parce que ça fait tellement de temps qu'on leur dit qu'il faut prier et qu'ils ne vivent rien, qu'ils ont fini par se lasser dans la prière. Pourquoi ? Parce que la raison première de la prière, la prise de conscience première qu'il faut lorsqu'on cherche à prier, c'est prendre conscience que Dieu est là. C'est la première des choses. Quand vous commencez à prier, c'est-à-dire à parler à Dieu tout simplement, vous pourrez lire Matthieu chapitre 6, c'est une instruction sur la prière que Jésus a donnée, on ne va pas le lire ce soir. Mais il va le dire, bien, ne soyez pas comme ces païens qui croient que c'est à force de récitation, de mots qui seront exaucés. Non, 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 non. Ne soyez pas non plus comme ces gens qui ont une bonne mine. Ils veulent montrer aux autres qu'ils prient, qu'ils sont très religieux. Non, 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 soyez pas de ces hypocrites-là non plus. Par contre, il va dire une chose, il va dire, par contre, si tu veux prier, alors va dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous comprenez l'image que Jésus donne ? Quand tu pries, rentre dans ta chambre et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Il faut que nous animions notre foi de cette vérité spirituelle. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je suis peut-être tout seul dans ma chambre. Je suis dans telle ville, je suis dans telle situation. Mais je sais que tu es là. Seigneur, je ne sais pas comment faire, mes mots sont petits. Mais Seigneur, je sais que tu es là. Mais ça, c'est le démarrage de la relation avec Dieu. C'est comme avec une vie de couple d'ailleurs. Si on ne cherche qu'à être là, sans chercher à créer un lien de cœur, alors la relation de couple va vite être fade et même désagréable. On sera là comme deux chiens de faïence à se regarder l'un l'autre. Mais dès qu'on veut commencer à se plaire, à se parler au cœur l'un de l'autre, à exciter des sentiments, à renouveler la connivence. Alors, on crée cette atmosphère de connivence, de complicité. Et c'est exactement ça que Dieu dit. Quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Ce n'est pas compliqué de prier. Il faut juste prendre Dieu au mot. Seigneur, tu es là. Seigneur, alors je peux te parler, alors tu vas me répondre. Seigneur, tu es là, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de ta consolation. Seigneur, j'ai besoin de ton avertissement. Seigneur, j'ai besoin de ton conseil. Et c'est ça la prière. C'est réaliser et prendre conscience de la proximité. Dieu est là, oui, c'est vrai. Mais vous savez, certains disent que Jésus est un gentleman. Qu'est-ce que c'est qu'un gentleman? C'est quelqu'un qui a beaucoup de délicatesse. C'est le genre de personne qui ne va jamais s'imposer, qui ne vous forcera à rien du tout. Et Jésus est de cette qualité-là. Un jour, il y avait deux disciples qui marchaient. Ils étaient un petit peu contrariés ce jour-là. Ils ne comprenaient pas que Jésus devait mourir. Et Jésus venait d'être crucifié, d'être mis au tombeau. Alors ils étaient là tout penauds, ils discutaient entre eux, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Nous on croyait que Jésus ce serait notre sauveur. On pensait que Jésus serait la solution. On pensait que Jésus serait notre libérateur. » Et voilà, ils étaient vraiment perplexes. Et ce Jésus se présente à eux sur le chemin. Ils discutent. Ils étaient tellement tristes qu'ils étaient même empêchés de le voir. Et le texte nous dit que ils étaient tous les trois chemin faisant. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Vous voyez la scène? Ils sont en chemin. Et puis les deux disciples, eux, devaient rentrer chez eux. Et Jésus semblait vouloir aller plus loin. Il ne cherchait pas à faire l'incruste, pardonnez-moi l'expression. Mais là, il nous est dit que ils le pressèrent, les deux disciples le pressèrent, dire « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Alors, il entra pour rester avec eux. Ça, c'est Jésus. Jésus n'avait aucune obligation. Il semblait vouloir aller plus loin. Sous-entendu, je ne vais pas m'imposer à vous. Et si ces deux disciples lui avait dit « Au revoir, monsieur, j'espère qu'on se reverra. La conversation était très agréable. À bientôt, bonne route !» Alors Jésus aurait continué son chemin et les deux disciples seraient rentrés chez eux. Et Jésus est pareil dans notre vie. On peut prier. On peut dire « Seigneur, je sais que tu es là. » Mais Jésus attend une chose de notre part. C'est qu'on l'invite. Qu'on aille plus loin que le seul fait qu'il soit là. Qu'on lui dise, Seigneur, viens dans ma maison. Viens dans ma vie, Seigneur. Je te prie là. Et je sais que tu n'es pas un Dieu ignorant. Je sais que tu n'es pas un Dieu absent. Ta parole me dit que là où je rentre dans ma chambre, là tu es. Mais je ne veux pas rester juste là dans une relation d'observateur. Mais je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu viennes dans mon cœur. Un jour, les disciples étaient dans la barque. Ça aussi, c'est une histoire incroyable. Ils sont en train de ramer. Jésus n'était pas avec eux à ce moment-là. Il nous a dit qu'ils avaient des vents violents qui les empêchaient de ramer. Ils ramaient, ils n'avançaient pas, ils ramaient. C'était la nuit, ils ramaient, ils en avaient marre, ils étaient fatigués. Et voilà un des miracles que même les païens connaissent. Jésus marche sur les eaux. Oh, ils sont surpris. Oh, mais qu'est-ce que nous dit le texte? Est-ce que c'est seulement un hasard? Il nous est dit que Jésus voulait les dépasser. Comment c'est possible? Ces disciples sont dans la barque. Jésus marche sur l'eau. Et la Bible nous dit que Jésus voulait les dépasser. Ils se moquent d'eux ou quoi? Mais c'est la même histoire. Quand on lit les autres évangiles, on voit que les disciples ont demandé à Jésus de venir dans leur barque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Jésus rentre dans leur barque, toutes leurs difficultés s'arrêtent. Le vent s'arrête, Et ils arrivent à bon port. Et c'est une réalité spirituelle. Il y a des gens qui entendent le message de l'évangile. Il y a des gens qui entendent que Jésus peut les aider. Ils entendent que Jésus est celui qui peut transformer leur vie. Ils entendent que Jésus est véritablement la solution à leur vie. Ils entendent ça. Ils sont enveloppés de ce message. Ils entendent qu'ils ont besoin de confesser leurs péchés. Ils entendent qu'ils doivent abandonner leur mauvaise voie. Ils entendent que Jésus est véritablement celui qui changera leur cœur et les circonstances de leur vie. Ils entendent tout ça. Mais ils laissent ce message bien gentiment à côté d'eux. Alors que ce que Jésus veut, c'est qu'on l'accepte dans notre barque. Allez, un peu d'exercice. Luc, chapitre 19. On va lire une autre histoire qui est encore une parfaite illustration de la manière dont Jésus veut faire. Et là encore, on va voir que Jésus est véritablement celui qui veut prendre, qui veut passer du temps avec nous. Luc chapitre 19. Tout le monde y est ? Léon ? C'est une très belle histoire. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Je fais une petite note d'introduction. Ce Zachée, c'était le chef des péagers. Et il était riche parce qu'il abusait de sa situation de collecteur d'impôts pour prendre plus de sous qu'il faut et se les mettre dans sa poche. Alors vous comprenez la réputation de cet homme. Lui, il toquait dans les maisons pour récolter l'impôt. Il en demandait plus pour s'enrichir lui-même. Donc s'il était riche, c'est parce qu'il grappillait sur le dos des autres. Et il n'était pas du tout aimé à cause de ça. Verset 3. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un arbre, un sycomore, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée ! Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : Quoi ? Jésus ! Il est allé loger chez un homme pécheur, chez ce voleur de Zachée ! Mais Zachée se tenait devant le Seigneur et lui dit : Voici Seigneur, à partir de maintenant, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, eh bien je lui rendrai quatre fois plus. Jésus lui dit : Le salut est entré. Vous entendez cette expression ? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Encore une très belle illustration. On a vu jusqu'à maintenant que Jésus était celui qui voulait prendre du temps avec ses disciples. Ça, on a bien compris, ça. Mais Jésus n'est pas celui qui fait du clientélisme. Jésus a eu une phrase toute simple. Il a dit : Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'être de médecins, mais ce sont au contraire les malades. Et ça, ça a été toujours la logique de Jésus. Bien sûr que pour les disciples qui réalisent combien Jésus est un Dieu rempli de grâce, d'amour, de délicatesse, alors bien sûr Jésus veut leur communiquer son amour. Mais Jésus ne se limite pas à eux seulement. Ce Zachée, ce voleur, cet homme qui était méprisé par les gens et qui était méprisable, cet homme qui se servait de sa situation pour opprimer le plus fort, le plus faible, celui qui n'hésitait pas à voler ses propres frères, cet homme qui était capable de demander plus sans vergogne et qui s'enrichissait notablement sur le dos des autres, un profiteur.
Cet homme
haï et haïssable qui voulait juste voir Jésus. Je pense que dans l'esprit de Zachée, il n'avait même pas un seul instant l'idée de dire « Oh, si seulement il pouvait rentrer chez moi !» tellement lui-même se savait être un mauvais type.
Mais Jésus ne s'arrête pas aux mauvais types, ou comme on l'a vu les autres fois, aux espèces de bonnes femmes. Jésus, au contraire, il veut venir habiter dans nos maisons. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
Quoi, cet homme, il est rentré chez ce logeur?
Oui.
Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. C'est que Jésus veut passer du temps avec ceux qui ont besoin de lui. Jésus veut guérir ceux qui sont malades. Jésus veut relever ceux qui sont à terre. Jésus veut sanctifier ceux qui sont pourris. Jésus veut pardonner ceux qui sont noyés dans leurs péchés. C'est ça la volonté de Jésus. Et il ne le fait pas à distance.
Aujourd'hui, on fait tout à distance. On envoie les téléphones, des textos, on envoie des mails. Il y a même une pub à la télé qui passe que de son bureau, la dame, elle arrive à fermer les lumières et choux de ses enfants. Mais avec Jésus, il n'y a pas de distance. Il veut venir dans nos maisons. Il veut faire entrer le salut dans nos maisons. Mais vous avez vu la délicatesse de Jésus? Il lui dit, comme il nous dit à nous ce soir, « Je veux demeurer dans ta maison. » Et c'est Zachée qui l'a accueilli. Jésus ne s'est pas imposé, mais il lui a juste annoncé cette bonne nouvelle. « Je veux rentrer, je veux demeurer chez toi. » Comme il est écrit en Apocalypse, chapitre 3, verset 20, où il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » L'invitation de Jésus reste la même. 2015 ans après, Jésus se tient là et il frappe. Si quelqu'un ouvre, alors Jésus rentrera et communiquera la vie, la grâce. Plus on prend du temps d'être avec Jésus, et plus on se sent aimé. Plus on prend du temps d'être avec Jésus, et plus on se sent valorisé. Plus on est avec Jésus, plus on prend le temps d'être avec Jésus, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, et plus nos peurs s'éloignent. Plus nous cherchons à chanter ses cantiques, à venir dans l'église, à serrer sa parole sur notre cœur, à la méditer. Et plus nos ténèbres se transforment en lumière. Plus on veut s'approcher de Jésus dans le secret de notre chambre. Plus on lui parle. Et plus sa paix, sa joie, sa force, sa maturité, sa sagesse remplit notre vie. Amen. Nous avons tout à gagner, à passer toujours plus de temps avec Jésus. Il ne repousse personne, ni le disciple quand il va bien, ni le disciple quand il va mal. Il ne repousse aucune personne, même si sa réputation est dégradée, bafouée, maltraitée. Que l'on soit un homme ou une femme, que nous soyons enfants ou adultes, l'invitation de Jésus reste toujours la même. Je me tiens à la porte et je frappe. Ouvrez les portes de votre cœur et je viendrai habiter en vous. Amen.